finale avec Rémi Gabou-Boudrizi, Florence Mendès, Morgane Calvignon, Jérémy Crépuy, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Juliette Armanet.
Tu vas bien?
Comme un coquelicot.
Je chante super bien,
je le tiens.
Je crois que c'est
j'aime Juliette. J'aime Juliette.
Ah ouais, tu peux. Alors, elle sera notre invitée en quelques instants, mais d'abord un blind test autour d'un thème, mais lequel?
Le disco, Jérémy.
Génial. Jérémy.
C'est Johnny.
C'est le feu.
C'est allumer le feu.
Et c'est ça, Johnny. C'est feu là-bas.
On va se piéger sur Johnny quand même. Alors, il faut.
Parce que dans le clip, elle est en feu.
Alors oui, parce que je n'ai pas précisé une chose, c'est que voilà, l'album s'appelle Brûler le feu.
Ah, très bien. J'avais révisé Juliette.
C'est vrai, bah, c'est bien.
Jérémy.
Tanguy. Oui, Jérémy.
C'est Earth, Wind and Fire. Ah oui, parce qu'il y a le feu dedans.
Oui. Il y a le vent, il y a le vent aussi et la terre, mais bon, ça c'était moins urgent.
C'est en anglais.
Qu'est-ce que c'était bien ça.
Plus sorti grand chose.
Ouais, ouais. Je vois Omar Sy. En costard. Ouais. Qui monte sur scène avec eux. Ah oui.
Moi, je vois ma tante au mariage, mais c'était moins réussi.
Non, c'était moi.
Moi, je vois des potes qui ont envie de danser, quoi.
Ah ouais.
Ça me démange. Qui chante ça?
Florence, Feu j'adore.
Oui, Florence.
Pardon. Non, Feu j'adore.
Tanguy, Tanguy.
NTM.
Ayam, le feu. Ayam.
Oui, Tanguy.
On vous met.
Wow. Trop bien,
je rappelle que c'est Frida Oumpapa d'Annie Cordy qui a donné naissance à cette chanson. Hein.
C'est vrai?
Ouais. Je suis Frida Oumpapa.
Ah, faudrait que j'écoute ça.
Ce clip.
Qui chante ça?
Florence.
Non. Non, mais non, c'est Collectif Médicis ou je sais pas quoi.
Non. Taisez-vous.
Jérémy.
Morgane.
Jérémy.
C'est Kinvé.
Trop tard, Morgane.
C'est
Kinvé.
Kinvé.
Non, c'est Soul. Soprano.
Oui, Soprano, mais arrêtez.
J'ai dit Kinvé.
Beaucoup de chance.
Je suis en feu.
En fait, tous ceux de Marseille parlent de feu, quoi. Ayane, Soprano.
Attention, beaucoup plus pointu. Enfin, je crois.
Ah.
Florence, Necfeu.
Non.
Tanguy.
Non.
Oui. Vangelis.
Joli.
Les chariots.
Les chariots de feu.
Ouais. Les chariots de feu,
bravo.
Ouais. J'avais le titre.
Ting, 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 ting.
Mais Daniel.
Mais je l'avais, mais il est plus
rapide. Il est où, Daniel?
Et ça, ouais. En plus, c'est un fond pour une chronique de Daniel.
Ouais. C'est pour ça que je dis ça.
Il se lève, voilà. Là, c'est sa sonnerie de réveil.
C'est amené tapis. C'est vrai? Pour me réveiller le matin, elle a raison, Morgane. Je lui marche dessus.
Faut le voir, foutre le pied hors du lit là-dessus. Hein.
Je précise que quand il parle de tapis, Daniel Morin parle toujours de tapis musical ou musicaux, mais jamais de tapis de sport ou de course. Non, jamais.
Il l'a fait.
Qui chante ça?
Morgane,
ouais. Pomme. C'est Necfeu.
Pardon.
Pomme.
Jolie.
Nous brûlerons.
Jolie.
On brûlera.
Vous brûlerez.
Tu brûleras.
Quelle voix elle a.
Nous brûlerons. Nous brûlerons. Voilà.
Instant, bien. Un point pour Morgane, deux pour Tanguy Pastureau, trois pour Jérémy, rien pour Florence Leïla
Dany.
C'est en force de proposition.
Oui. C'est le banco.
Allez, c'est là, ouais.
C'est déjà le banco.
C'est là, ouais. C'est là, ça va être chaud.
Leïla, Morgane. Faut que j'attende.
Ouais.
C'est
une victoire de cadeau.
Braquage,
j'ai adoré.
Et merci d'accueillir Juliette Armanet.
France Inter.
Bienvenue Juliette.
Salut.
Queen Juliette. Queen Juliette.
Queen Juliette.
Je veux le passer sur ta peau. Oh, comme un coquelicot.
Ah oui, il y a du coquelicot, il y a du jasmin. C'est ça, il y a beaucoup de fleurs hein,
dans les paroles.
Dans les paroles.
C'est le discours.
C'est l'amour.
Soyez la bienvenue. On pose souvent la question à des auteurs, non, plus généralement d'ailleurs à des réalisateurs de films, ce qu'ils ressentent le jour de la sortie d'un film, mais rarement au moment de la sortie d'un disque. Alors oui, il y a déjà eu des singles, on a déjà eu des avant-goûts, dirais-je, mais est-ce qu'on est dans un état particulier le jour de la sortie de l'album?
C'est la délivrance, Nagui, c'est une délivrance.
C'est
voilà.
Comme une naissance.
C'est comme une naissance, exactement. Et cette semaine, j'ai fêté les 3 ans de mon fils et la sortie de mon deuxième album, donc c'est une grande semaine de naissance.
Ah oui, vous allez vraiment dans le parallèle, d'accord.
Voilà.
Avec un album qui commence par la fin, les premiers mots prononcés sur l'album sont...
C'est la fin.
Voilà, comme ça au moins c'est...
Mais c'est bien, c'est une tension dramatique, c'est bien.
Alors, des tensions dramatiques et beaucoup d'histoires personnelles, même si on peut toujours se cacher en disant « mais non, je parle à tout le monde, j'évoque des choses qui concernent tout le monde ». Il y a toutes les étapes de la vie et de l'amour sur cet album.
Absolument, toutes les étapes de la vie, de l'amour. Il y a beaucoup de couleurs, de tous les sentiments. On passe par les oranges, les rouges, les bleus. Voilà. Non, mais c'est, plus sérieusement, oui, c'est la vraie vie, mais la vraie vie, c'est aussi la fiction de nos vies. On est autant fait de nos fictions que de nos vies vraiment vécues. Nos autobiographies sont autant fictionnelles que réelles. Donc voilà, ce disque, il est fait de vies rêvées, de vies vraiment vécues, de tous les endroits possibles de nos imaginaires.
Il y a eu cet électrochoc entre vous et le public. Ce coup de foudre.
Ouais.
Et donc après avoir fait longtemps l'amour en solitaire, là, il y a des enfants, il y a des couples.
Non, l'amour à plusieurs.
Voilà, c'est ça. Et il y a des ruptures aussi. On peut présenter l'album comme une forme de concept dans l'histoire, c'est-à-dire la fin d'une histoire d'amour, la fin d'un couple. Il y a vraiment là, je t'ai aimé, je t'ai laissé, c'est elle qui est partie. Hein. Je t'ai aimé, je t'ai laissé, mais je ne t'oublierai jamais. Mm-hmm. Et puis après, il y a tout l'allumage qui vient avec...
la grande allumette.
Non mais c'est vrai, c'est le visage comme une allumette qui rappelle la pochette, la phrase, vous la dites avec cette allumette qui met le feu dans la tête de l'un et de l'un et de l'autre, et tout, comme une histoire d'amour qui revient et qui est impossible, enfin je veux dire qui est plus forte que tout, qui est même irrationnelle.
Mais les grands amours sont plus forts que tout, ils nous emmènent dans les endroits les plus vertigineux de nous-mêmes, c'est pour ça qu'on les idolâtre, c'est pour ça qu'on s'en sert pour écrire des chansons, c'est pour ça qu'on a envie de les chanter, c'est parce qu'il y a des crêtes.
Quand vous dites les grands amours touchent tout le monde, concernent tout le monde, ces amours sont peut-être pluriels, mais est-ce que là c'est une seule et unique histoire d'amour quand même que vous racontez ou pas dans cet album?
C'est plein d'amour mélangé, c'est plein de d'étapes de ma vie.
Non, mais Julie, vous pouvez pas vous cacher tout le long comme ça.
C'est mais si, c'est beau la pudeur, Nagui.
Non, je vois pas ce qu'il y a de beau dans la pudeur.
Essaye, Nagui, essaye.
Non, mais bien sûr qu'il y a plein de, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des vies rêvées et il y a des vies vraiment vécues. Il y a des émotions très fortes que j'ai traversées ces trois dernières années qui m'ont amené à écrire, qui m'ont donné envie d'écrire, dont je me sers pour écrire et que j'entretiens pour écrire. Donc voilà, c'est un va-et-vient.
Vous forcez à rester avec un amant pour pouvoir écrire des chansons.
Enfin,
j'adore l'idée. Parce que si quelqu'un a une aventure avec une chanteuse, il a quand même de fortes chances de se retrouver dans une chanson un jour. Quoi. On a l'impression que c'est une...
Ça dépend. Je suis à l'origine de 4 albums. Hein.
Allumez le feu, c'est toi.
Un coffret, quoi. C'est ça.
À la queue.
Non mais est-ce qu'il est impossible d'écrire sans s'impliquer au point de se révéler, se mettre à nu?
Ah, mais on écrit pour se mettre à nu. Moi, justement, quand j'ai commencé ce disque, l'intérêt pour moi, c'était de me dire. Qu'est-ce que je vais découvrir de moi-même finalement après avoir vécu tout ça, cette grande tournée, un enfant. Il y avait vraiment voilà cette histoire de miroir. On se tend un miroir en se disant qu'est-ce que je vais voir de moi, qu'est-ce que je vais découvrir de moi, qu'est-ce que j'ai à me dire en fait. Il y a aussi ça.
Et
est-ce
que j'ai encore des choses à dire?
Et est-ce que j'ai encore des choses à dire? Ouais.
Bah non, mais attends,
mais
ça va.
Non mais bien sûr.
Au début d'une carrière, est-ce que j'ai encore des choses à dire?
Deuxième album après un grand succès comme ça, je pense que c'est vertigineux.
Non, ça c'est autre chose, c'est la pression.
Non, mais au-delà de la pression, c'est se dire est-ce que j'ai pas. Parce qu'un premier album, on s'en rend un peu compte, mais c'est beaucoup de travail en amont. Souvent, c'est beaucoup plus d'années de préparation pour un premier album. Après, on doit enchaîner le deuxième, on a moins de temps. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu entre-temps? Qui suis-je? Est-ce que j'ai vraiment encore quelque chose pour surprendre le public? Pour faire qu'il m'aime encore, quoi.
Ouais, pour que tu m'aimes encore. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, ça
note,
joue.
Note, c'est un bon titre, note. Ouais. Attends, on sait jamais, ça peut servir.
Ça peut marcher.
Vous vous êtes posé toutes ces questions au point peut-être même d'avoir la phobie de la page blanche?
En fait, j'ai pas vraiment eu la page blanche. J'ai été plutôt dans l'excès inverse. J'ai énormément composé, énormément travaillé. J'ai tout essayé, toutes les couleurs, tous les déguisements possibles, tous les autotunes, toutes les banques de sons. Je me suis mise à l'ouvrage de manière un peu frénétique, quoi. Mais parce qu'il y avait aussi beaucoup de désir de voilà, d'être hyper créative.
J'avais réussi.
En tout cas, le mot d'ordre pour moi, c'était vraiment d'être la plus libre possible. C'est-à-dire une fois qu'on s'affranchit de la question de la pression, enfin on s'en affranchit jamais vraiment totalement, mais en tout cas moi je me suis dit transforme ça en exigence de liberté, en te disant bah finalement la seule exigence qui doit rester c'est d'être la plus créative possible, de pas avoir peur de prendre des risques, de pas avoir peur de se tromper, de rester dans une démarche de création qui soit très libre. Et j'ai beaucoup pensé à Christophe en faisant ce disque qui faisait voilà, qui pour moi était vraiment un artiste qui a jamais renoncé à sa liberté créatrice, qui était presque à faire ses meilleurs albums à 70 ans finalement. Donc voilà, il y avait pour moi un peu un guide spirituel en me disant bah voilà, n'aie pas peur du danger, n'aie pas peur des errances, n'aie pas peur des erreurs, essaye tout, amuse-toi, accidente un peu tes chemins harmoniques. Ose quoi.
Parler de Christophe, c'est tristement le dernier duo qui nous est offert dans Taratata. Ouais. Non pas le fait que ce soit tristement avec vous, mais tristement la dernière fois qu'il était venu chanter quelques jours avant malheureusement de tomber malade. C'était la Dolce Vita.
Et j'étais facile de tomber dans mes bras, se promener en ville de la Dolce Vita. Cette façon que tu avais de te serrer entre le revers de mon smoking blanc cassé, je ne l'ai jamais retrouvé. Le soleil écrit sur ma mémoire en ruine.
En tout cas, vos voix se marient extrêmement bien dans ce duo. La Dolce Vita, Juliette Armanet avec Christophe. Et Juliette Armanet revient avec un nouvel album. Beaucoup d'humeur, beaucoup d'ambiance, des sons à la fois doux, à la fois entraînants.
Je veux pas de frou-frou, juste ce mec-là, point basta.
La basse est très présente, hein.
Ouais.
Somme.
Laurent Werner est à la basse.
Boum boum baby, boum boum baby. Boum boum baby, boum boum baby. J'en suis fou.
Je veux sauver ma vie.
Sorte de mélange entre Lenny Kravitz et cet extra de Léo Ferré.
C'est vrai, c'est pas mal ça.
Ça vous va comme mariage?
Oui, j'aime bien.
C'est
j'aime
chic,
bien.
Non
c'est chic.
C'est bien. Léo Kravitz. Ça, tu aimes ça, Léa aussi. Je crois que c'est cette chanson qui finit par des rires d'enfants. On entend la mer avec des
non,
vagues.
Ça c'est
pardon.
Imaginer l'amour. Ouais,
c'est celle-là.
Ouais,
c'est
voilà.
Celle d'après.
Le bruit que l'on ferait la nuit quand je prendrai ton corps. Parfois tu chuchotes.
Et là, on retrouve l'affiliation avec Christophe. Hein.
Ah oui.
Ah ouais. On est vraiment dans cette humeur-là, mais les références sont nombreuses. Et puis finalement, on peut aussi résumer en disant c'est du Juliette Armanet, tout simplement. On va arrêter de chercher aussi les influences musicales, même si on pourra en parler en quelques instants. Le nouvel album, c'est aujourd'hui. Ravi d'accueillir Juliette Armanet pour fêter cette sortie. Nous sommes ravis. C'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Voici Morgane Cadignan, ma sorcière. Parce que Morgane ne vous aime pas.
Oh là là, quelle sauce va être mangée.
Ouais, très gentiment. Juliette Armanet, je vous aime pas. Mais juste parce que vous êtes la cause d'énormément de disputes entre Leïla et moi lors des blind tests en début d'émission. Ouais. Parce qu'on veut toujours être la plus rapide pour reconnaître les premières notes d'À la folie. Et après, on écoute un peu À la folie et plus personne n'a envie de faire cette émission. On s'en fout. On veut tous aller serrer ton corps contre mon corps et serrer ta nuit contre ma nuit. Alors, me serrer contre le corps de qui? Mais peu importe. Mais je te jure, Jean-Louis, tu coupes la musique, je te coupe la main. Quand vous reprenez Une nuit sur son épaule avec Véronique Sanson, chanson. Je veux passer une nuit sur son épaule. L'épaule de qui? Mais peu importe, on s'en fout. L'important, c'est de vivre ce qui est dit dans la chanson. Il devrait y avoir une sorte de petit service d'escorte comme ça. Quelqu'un que tu rémunères juste pour réaliser ton petit clip fantasme personnel. Tu vois, t'écoutes L'amour en solitaire et babim, tu paies quelqu'un pour fumer des cigarettes sur la plage. Après, tu paies un amoureux pour aller sur les bancs publics. Moi, personnellement, j'ai déjà loué une petite fille afghane juste pour lui demander s'il avait déjà entendu parler de Manhattan. Et bah oui, figurez-vous, comme quoi on nous ment.
C'est illégal!
Juliette Armanet, l'album Petite Amie, il est sorti en 2017, Brûler le feu en 2021. Et comme dirait un Américain sous Trump, bah 4 ans c'est long quoi. Franchement, comme beaucoup de gens, certaines de vos chansons ont accompagné des moments un peu décisifs. Je m'étais mis votre voix cristalline à fond dans les oreilles quand justement il y avait plus rien de clair dans ma tête. Ça m'a aidé à danser souvent, ça m'a aidé à pleurer parfois, ça m'a pas aidé dans les karaokés en revanche. Parce que tenter de vous reprendre quand on n'a pas la note, c'est pas chaud. Très poli pour les copains quoi. Tu m'entends, on dirait que j'essaye d'appeler les dauphins quoi. Putain, c'est pénible cette alarme de Xantia dans la rue là. Mais non, c'est Morgane qui chante Manque d'amour. Ah d'accord. Bref, vous l'avez compris, vous faites partie de ma BO. Il était grand temps que vous reveniez parce que moi, en attendant, je mets ma vie en suspens parce que j'ai pas la nouvelle bande son. Donc 2 ans que je me force à pas quitter quelqu'un parce que je veux me barrer sur le nouvel album. Et là, vous sortez Le dernier jour du disco. Bah tant pis, hein, je vais attendre, je vais m'adapter. Mais on fait pas de disque de platine pour laisser les gens comme ça à l'abandon pendant 4 piges. Je suis désolée parce que nous, depuis, on cherche des chanteurs ou des chanteuses comme vous nés à Lille. Et du coup, bah, on a Jérémy Crédville qui reprend la compagnie créole. Et en plus, ça marche. Et moi, j'ai une vraie peur dans la vie, c'est qu'un jour, la compagnie créole reprenne Jérémy Crédville. Et là, on aura bouclé un des cercles de l'enfer. En attendant la mort, Le dernier jour du disco, c'est un truc qui se vit tête en arrière, un peu penché, les yeux mi-clos, les mains un peu levées. Ça arrive pile pour l'hiver pour mettre un peu de rythme à l'intérieur des doudounes. Voilà. Moi, j'avais hâte de la suite. Surtout mon Spotify qui parfois m'envoie des notifications push pour me dire, meuf, t'es sérieuse encore? Bah ouais, meuf, je suis sérieuse encore.
Merci. La violence de son regard, voilà, tout simplement.
Je prends cher.
Décalé Catane, décalé
Catane. Et Morgane est au Métropole Théâtre du jeudi au samedi à 20h. Voilà,
on jeudi. Pas Retour donc sur ce nouvel album. Est-ce que la structure de l'album, avant de parler de ses influences musicales ou en tout cas de vos tentatives musicales, parce que vous avez dit j'ai tellement nourri, donc j'imagine qu'après il a fallu faire un tri. Oui. Ce tri s'est fait à partir du son, du tempo, des propos. Qu'est-ce qui vous a guidé?
Il y a des évidences en fait. Il y a parfois on fait des chansons ratées qui nous emmènent à la bonne chanson. C'est-à-dire que parfois on en fait 4 qui sont qu'on garde pas pour qui sont les brouillons de la chanson qu'on va garder finalement.
C'est-à-dire les 4 condensés donnent une bonne chanson?
Non, pas condensés, mais parfois un certain chemin, une D'accord. certaine inflexion de voix va faire qu'on va trouver la suite.
Et votre définition de la bonne chanson, c'est quoi?
Un texte qui épouse parfaitement une mélodie. Voilà. Et il y a une chanson.
Donc Jean-Michel Jarre a fait que de la merde, il n'y avait pas de texte. Très bien, non, c'est une déclaration. Ok, d'accord.
Non, Jean-Michel Jarre a écrit des chansons, des paroles absolument extraordinaires.
Les mots bleus, c'est lui.
Ouais, Petite fille du soleil. Je rêverais qu'il écrive un texte pour moi d'ailleurs.
Le message beaucoup. Est passé.
Mais non, j'ai fait. Le tri se fait naturellement. C'est comme une pellicule photo, on en fait plein. Et puis il y a des évidences. Parfois, on prend du recul. Certaines chansons qu'on n'aime plus, avec un peu de temps, on y retourne. Voilà, il faut avoir le temps, justement. Vous parliez de 4 ans, c'est long. Bah, moi, je trouve que 4 ans, c'est bien. Parce que c'est... Non, mais c'est beau, la lenteur. Il faut oser être dans la confiance par rapport à la musique qu'on délivre, par rapport au tempo intérieur que nous imposent les choses. Moi, il faut pas céder à l'hystérie de est-ce que le public va m'oublier? Est-ce que... Oh là là, est-ce que 4 ans... Voilà,
bah, non, j'arrive... Mais, c'est pas bon. C'est pas est-ce que le public va m'oublier, parce que c'est pas le cas. Et en l'occurrence, vos présences avec des duos. Non, c'est que il y a aussi ce que dit aussi Morgane, il n'y a pas que sa BO personnelle, il y a l'air du temps. C'est-à-dire qu'on imagine bien qu'en 4 ans, vous avez eu des choses à dire, que vous avez vécu des choses et qui auraient pu arriver tout de suite. Pas forcément intemporel, mais qui étaient vraiment dans l'air du temps.
En tout cas, moi j'avais la nécessité forte de prendre le temps de chercher, parce que les albums, on les fait aussi pour soi, pour un chemin de vie, quoi. Il faut qu'on vit avec un disque pendant 3-4 ans, entre le moment où on le défend, puis le moment où on part en tournée. C'est une bible d'un certain moment de nos vies, donc elle doit être à l'image de ce qu'on a vraiment à dire en profondeur. Donc,
mais on a quand même toujours un peu peur.
Ah mais non, mais on n'a pas un peu peur, on est tétanisé.
C'est vraiment l'histoire d'une rupture, on est d'accord, hein. C'est vous qui le quittez.
Mais Nagui, c'est ce que j'ai compris. Vraiment savoir.
Non, oui, je veux savoir.
Il y a une part de fiction aussi.
Comment il s'appelle, il habite où?
C'est une... Mais non, c'est une histoire.
C'est une histoire de rupture en tout cas.
C'est une histoire de libération plus exactement. Je trouve que c'est un disque en tout cas moi qui m'a libérée à plein d'endroits.
D'accord.
En tant que musicienne, je me suis beaucoup épanouie dans cet album parce que je suis allée chercher des cordes que j'avais pas du tout mises sur le premier par exemple. Je suis allée chercher, par exemple, dans le disco c'est une vraie science, très musicale, ça convoque beaucoup d'instruments, ça convoque des cordes, ça convoque des cuivres, vous parliez tout à l'heure des basses, voilà, c'est
une... Il y a un tempo bien précis.
Et ce clip, pardon, ce clip...
Bah attends, finissez votre raisonnement. Donc, j'aime bien l'idée de convoquer des instruments sur un morceau de disco. Ouais.
C'est assez, c'est une vraie science les arrangements du disco, parce que qu'est-ce qui fait que d'un seul coup on va se lever de sa chaise, on va pas écouter juste le morceau en disant c'est pas mal, on va avoir envie de se lever, de danser, pour que la musique devienne physique, pour qu'elle vous emporte le corps de manière concrète. C'est une vraie science des arrangements. Et moi, ça m'a passionné de rentrer dans la chair des chansons, d'aller vraiment me concentrer sur le moindre son de caisse claire, de triangle, de rentrer dans cette science des arrangements. J'ai été hyper bien entourée.
Avec Sébastien, justement, qui a bossé avec Daft Punk, ou encore Julien Delfon, qui a bossé avec Phoenix, Sébastien Tellier,
Victor
Lemann, qui a bossé avec Avinsky, Marlon B, qui était déjà présent en lui sur Petite Amie.
Et Yuxek aussi, qui a mixé les titres. Non, j'ai été très très bien entourée, avec plein de savoir-faire très différents, et c'est un disque de libération. Moi, c'est un disque qui m'a libérée. Je me suis amusée, j'ai chanté autrement. Je pense que le live m'a beaucoup appris sur la manière de chanter, de libérer l'énergie de la voix, d'aller chercher dans les hauteurs, dans les crêtes, un peu dans le danger aussi, de pousser un peu les extrêmes, quoi, de pousser un peu les curseurs. Donc moi je dirais que c'est un disque de femme libérée. Voilà.
Quelque part, l'envie de faire bouger, de faire danser, sort aussi de l'idée d'être emprisonné, d'être confiné, de ne rien pouvoir faire, de ne voir personne pour faire la fête.
C'est possible. J'ai l'impression que tous les albums qui ont été fabriqués, pensés pendant justement le confinement, la nature humaine est bien faite dans les moments de difficiles.
C'est une sorte d'exutoire.
Voilà, il y a quelque chose de très... on va chercher dans l'instinct de vitalité le plus fort qu'on a en nous. Donc, tous les albums qui ont été faits pendant cette période si troublante, au final, c'est pas du tout des albums deep ou tristes, c'est des albums très énergiques, avec beaucoup de lumière, quoi.
Et puis, il y a un duo, carrément, avec Sébastien. Vertigo. Passant dans ta ville.
Je tourne comme un passant dans ta ville, je tombe comme un pleur sur ton cil.
Ces chansons sont toujours, souvent en tout cas, autour de l'amour.
Oui.
Et alors là. On est carrément dans un slow endiablé des 60s, j'ai envie de dire. C'est très, très soul, très, très slow. Et puis alors sur les textes, 8 fois, je ne pense qu'à ça. J'adore ce gimmick, c'est-à-dire de le dire, je ne pense qu'à ça, mais de le dire 8 fois dans le refrain comme une espèce de clou qu'on enfonce dans la tête.
C'est qu'elle pense vraiment qu'à ça. Quoi.
Ouais, voilà,
c'est une chanson sur les obsessions. C'était justement pour ça que je voulais marteler la... Cette voix, presque comme quelque chose qui s'enroule comme ça autour de soi, c'est les chansons d'obsession comme ça.
C'est une incantation quasiment.
Complètement, ouais.
Et puis il y en a une qui sort un tout petit peu du lot, c'est le Happy Birthday to You.
Ah,
c'est-à-dire
ouais.
Que oui, bah, ça reste autour de l'amour, je ne sais pas quoi t'offrir pour ton anniversaire, mais.
Happy Birthday to You. Cette chanson, en fait, au départ, c'est un... c'était... On a des échanges avec un copain depuis quelques années. On s'envoie des chansons de d'anniversaire, des petites maquettes qu'on se fait. C'est des trucs de musicien pour se faire plaisir, quoi. Et puis, au fur et à mesure...
C'est des cadeaux.
C'est des cadeaux, des petits cadeaux musicaux, voilà. Et donc, c'est assez intime. Et puis, au fur et à mesure, je sais pas, ces dernières années, je me suis rendu compte qu'on m'avait demandé de venir chanter... aux anniversaires, aux enterrements. Bon, voilà. Et qu'en fait, nous, les chanteurs, on est aussi fait de ça. C'est toujours la blague. On fait aussi les anniversaires. C'est toujours la blague qu'on fait quand on fait les concerts. Mais en fait, en vrai, il y a un truc où, dans les moments forts de nos vies, on chante. Quand on célèbre un anniversaire, quand on perd quelqu'un, quand les gens se marient, on chante. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, cette histoire d'anniversaire, bah, elle raconte aussi quelque chose de la vie des chanteurs, de nos vies, où on est là pour accompagner les grands événements de nos vies d'humains. Et donc voilà, j'ai eu envie de la mettre. J'ai juste rajouté des chœurs gospel. Au départ, j'avais demandé aux Boys to Men de faire des chœurs. Ils n'ont jamais répondu, donc voilà. Je n'ai pas dit mon dernier mot.
Stevie Wonder a dit, moi j'ai déjà fait Happy Birthday.
Il l'a laissé en vue aussi.
Non.
Non, mais ce qui est bien, c'est que quand vous serez en concert, il y aura toujours quelqu'un dans la salle dont ça sera l'anniversaire.
C'est ça.
De la même manière que vous faisiez tout le temps monter un Alexandre.
Vous avez tout pigé. Exactement. Non, mais parce que moi, j'aime bien faire monter les gens sur scène. Je pense que ça vient du fait que j'ai beaucoup tourné toute seule, piano-voix, avant d'avoir un groupe et avant que les salles soient un peu plus grandes. Et du coup, je m'appuie un peu sur le public. Je faisais monter les gens. Donc là, je vais pouvoir fêter les anniversaires de chaque personne.
Et il y a beaucoup d'amour et toujours, toujours, toujours ce qu'il faut, la dose, l'élégance. Mais la dose d'érotisme.
Il y avait eu Je te sens venir aussi.
Oui, mais il est pas sur l'album, donc je peux pas le passer. Mais si tu le veux, je. Mais parce que ça fait partie aussi de votre manière de chanter. Alors, il faut chanter dans le souffle. On est plus dans le murmure presque.
Bah, en tout cas, j'avais envie que. On parlait de musique physique tout à l'heure. Moi, je trouvais que justement, ce disque, il a quelque chose d'assez charnel, d'assez sensuel.
Complètement.
Et que j'ai toujours été très. J'imagine comme d'autres. J'ai beaucoup écouté les Mariah Carey, les Whitney Houston et plus récemment Lana Del Rey. Quoi ?
Ça va être son mois.
Oui, le mois de Noël, c'est vrai que c'est son. Mais et toutes ces chanteuses qui sont s'envoler leur voix en mode diva à l'américaine comme ça, très sensuelle. Je sais pas, ça me hantait depuis un long moment. J'avais très envie de faire une grande balade américaine comme ça, sans complexe. Et cette chanson, Le Rouge au Joue, elle parle de ça. Elle parle du langage du corps. J'ai toujours aimé le fait qu'on rougit. C'est beau de rougir. Ça raconte souvent quelque chose. On peut être excité, gêné, intimidé.
On rougit, on frissonne.
Ouais, voilà.
Et puis on a des blessures aussi sur la peau. C'est ce qu'il y a aussi dans l'épine. C'est le nouvel album de Juliette Armanet. Le feu, c'est la dernière chanson d'album, la première. On va continuer d'en parler avec elle jusqu'à midi et demi, mais d'abord, voici Florence Mendel.
C'est bientôt Noël, cette fête que je déteste, comme toutes les fêtes de famille. Oui, je sais, ça vous choque en France, la famille, c'est le ciment de la société. Chez les Dupont de Ligonnès, la famille, c'est le ciment tout court. En plus, c'est une fête cateau. Moi, je comprends rien à leur truc. Voilà, pendant le carême, faut observer le jeûne. Sauf les prêtres, eux, ils observent les jeûnes. Mais on va quand même parler de religion, parce que la religion, ça fait grandir. Moi, j'ai rencontré Jésus, enfin, Jesús, sur une plage à Cancun. En une nuit, j'ai pris 17 centimètres. D'après ce que j'ai compris, alors Noël, c'est avant tout une histoire de boules. Donc, on parle de Jésus, hein, qui est censé être le perso principal dans la Bible. Alors que déjà il apparaît que dans la saison 2. Bonjour le seum. En plus Noël c'est son anniversaire à Jésus et c'est les autres qui reçoivent des cadeaux. Enfin des cadeaux il en a reçu hein, de la part des rois mages et dès le début, bonne ambiance. Tiens Jésus, je t'ai apporté de la myrrhe, c'est pour embaumer les morts. Allez, chouette, merci. Je veux pas te spoiler la fin, mais enfin, garde ça tout prêt, hein, au cas où. Te plains pas, c'est bien que j'ai convaincu l'autre tâche d'apporter de l'encens, sinon il serait pointé avec une boîte de loukoum, hein, il aurait bouffé la moitié pendant le voyage. Remarque, ça m'aurait arrangé, ça lui aurait tout collé les chicots, au moins il aurait fermé sa gueule. Et puis, il y a le dernier, il a apporté de l'or. Ça me saoule. Il y en a toujours un pour exploser le budget. Putain, Yasport, tu fais chier, on avait dit pas plus de 10 euros par cadeau. Plus sérieusement, ces cadeaux sont évidemment symboliques, hein. L'encens est là pour symboliser le divin, l'or, la royauté et la myrrhe pour rappeler que Jésus est mortel. T'imagines, c'est l'équivalent de te pointer à la maternité avec une couronne mortuaire et inscrite dessus le nom du bébé. Vraiment, c'est... On se fout de sa gueule à Jésus, le mec qui finit sur une croix en bois, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange de la bûche. Et puis, allez, sa conception à l'autre, là, on en parle vraiment. Joseph, tu m'excuses, mais enfin, il était con comme un cul. Une vierge enceinte, mais bien sûr, crois-moi, si dans la crèche, ils ont fait venir de l'âne, de l'agneau et du bovidé, c'est pour que Joseph, il se sente moins seul, d'accord? À ce stade-là, c'est plus des animaux de compagnie, Joseph, c'est de la parenté. Je me demande quand même si à un moment, en voyant son fils sur la croix, Marie, elle s'est pas dit qu'elle avait laissé les choses aller un peu loin. Tu vois, bon, allez, la meuf, elle est perdue dans son truc, la mère à Jésus, c'est Serge le mytho. En plus, à la base, Jésus, ça avait l'air d'un mec cool. Aujourd'hui, sa parole, elle est tellement travestie qu'elle trouverait du taf chez Michou. À mon avis, il a donné ses derniers commandements sur la croix et le mec, à ses pieds, il était marchand de cailloux et il a raconté n'importe quoi. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut qu'on se jette des pierres sur la gueule. Ok. Pauvre Jésus, sérieux, 2021 ans qu'on l'attend, mais le gars, moi je vous le dis, il est pas prêt de revenir. De toute façon, s'il revenait avec sa djellaba, sa barbe et sa gueule de rebeu, en 17 minutes, il serait fiché S. Bon, allez, ce qu'il faut retenir, c'est que apparemment Dieu nous aime. Voilà. Voilà, il faut penser tous, hein, il nous aime tous. Il faut penser à tout ce que Dieu nous apporte de bien dans cette vie, à nous les chrétiens, aux musulmans, aux juifs. Ouais, bon, les juifs qui aiment bien châtient bien. Voilà. Allez, moi je vais hiberner lorsque s'éteindra le chant de Maria Carré à l'est aux premières lueurs. Regardez, je serai là.
Merci.
Et Florence, tu es tous les mardis à la petite loge.
Oui, tout à fait.
On va parler également de la tournée, oui, de Juliette Armanet aussi, parce que qui dit nouvel album dit forcément tournée. On sait à quel point, et Morgane l'a rappelé tout à l'heure, vous aimez la scène et ils vous le rendent bien. Aussi, ça commencera par Nîmes, un choix
de soleil.
22 janvier.
Un choix de lumière.
De feu.
Très bien. Oui, le feu est très présent sur cet album. Les influences, on va en parler dans quelques instants. Et puis tout à l'heure, nous parlerons du marché du disque. Comment il se porte? Est-ce qu'il va bien ou pas bien avec Julien Baldacchino, qui est journaliste à la rédaction web de France Inter, avec la chronique Net plus Ultra. On parlera de ce marché. Mais d'abord, parlons de la musique que vous écoutez et pas celle que vous créez forcément. Juliette Armanet, on va commencer avec le fameux Stevie Wonder en 84. Yeah, yeah, yeah. Il avait grandi, baigné dans la musique de Stevie Wonder, de la Tamla Motown.
Ouais, bah c'est pour moi c'est un dieu, Stevie. C'est vraiment un dieu de
Wonder.
Ouais, Wonder. Mais rien que de s'appeler Wonder déjà, de s'appeler Stevie Wonder.
C'est un dieu, Stevie, ça m'a fait peur.
Ouais. L'autre il s'appelle Boulet.
C'est ça. Et bah le nom est très important dans la vie.
Voilà, bah il s'appelle Wonder et pas Boulet justement. Et non, c'est un dieu. Il s'est joué tellement d'instruments. Il a été précurseur, inventeur. Tellement généreux, sa musique est solaire, sincère et absolument indémodable.
Mais on est dans les années 84, enfin 84 c'est l'année de votre naissance,
et
Juliette.
Oui. Et oui, ça commence à faire un petit moment là.
Ça passe. Dans une famille où ça chante, ça vit, ça joue du piano, votre père est compositeur de musique contemporaine.
Absolument, ouais.
Et vous avez très tôt commencé le piano classique. Je crois que votre grand-mère a été l'élève de Fauré.
Ma grand-mère était une super pianiste, ma mère joue très bien aussi. Enfin, tout le monde joue le piano est vraiment l'instrument qui est dans la maison, qui régnait dans la maison, ouais.
Et vous avez commencé toute petite par mimétisme, par goût, par est-ce qu'on a le temps de se poser cette question-là quand tout le monde joue?
Je suis tombée dans le chaudron, ouais. Comme Obélix, quoi. Non, mais en vrai, en plus fin. Mais non, mais en tout cas, oui. Enfin, c'est cette question de la transmission, elle est étonnante parce qu'en fait, finalement, ça s'est fait très naturellement. Mmh. Je crois qu'il y avait une passion tellement sincère de mes parents pour la musique qu'elle s'est transmise de manière très fluide, ouais.
Et pour le chant aussi.
Oui, pour le chant aussi. Ouais. Bah, je faisais mes armes avec mon père. Je chantais les standards de jazz du New Real Book. Là, il avait la patience de me faire chanter, d'ailleurs. Et puis, voilà, ça a été une très bonne école pour la voix, d'apprendre à chanter du jazz. Ouais.
Et vous avez repris des accords de votre papa, ou vous lui avez demandé des accords sur Sauver...
C'est ses accords, c'est ça, c'est ça. En fait, sur Sauver ma vie, qui est une des chansons de l'album, il y a...
Que voici, pardon. Sauver ma vie.
Il l'avait pas écrite comme ça, mais... C'était une ritournelle au piano, en fait, au départ, et qui était beaucoup plus lente et tout. Et moi, j'ai accéléré le BPM et j'en ai fait une chanson un peu italo-disco, quoi.
Juste une petite précision pour les érudits. Stevie Wonder, c'est évidemment pas son véritable nom. Il s'appelle Steve Land Hardaway Judkins. Donc, ouais. Le côté, ouais, il s'appelle Wonder, forcément, c'est une merveille. Ouais. Mais est-ce que vous aviez envisagé, d'ailleurs, de prendre un pseudo ou de vous cacher dans un nom de groupe plutôt que d'avoir une identité totalement transparente?
La Gigi. Mais voilà, la Gigi, pourquoi pas.
Le Gigi Tour.
Ça a été une réflexion ou jamais?
Ça a été une réflexion, mais quand j'avais 20 ans, oui. J'avais un projet, voilà, qui n'a jamais vraiment vu le jour. Mais au début, je m'appelais Juliette Machin. Voilà, donc, n'importe quoi. Bien. Oui, voilà, ça n'avait aucun sens.
C'est drôle, finalement.
C'est bien que c'est pas marché. Quoi.
Voilà, exactement. Et je trouve ça. J'avais
Machin, j'aurais adoré.
Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, Voici Machin. Là, non, voilà, exactement.
Qui vous appelle comme ça.
Non, Voici Armanet, maintenant, on est.
D'accord, très bien. Voilà, mais. On arrive en... Dites-moi.
Je trouve ça... Je n'imaginais pas pouvoir assumer un projet avec autre chose que mon nom.
En 2009, nous parlions tout à l'heure, vous parliez de Mariah Carey, vous l'écoutiez. Quand vous dites Mariah Carey, c'est pour le matin. Pourquoi?
Pour le matin, bah, on écoute ça le matin, on est bien, la journée commence bien. Ouais, quelle prod de dingue. Vous écoutez pas ça, Nagui?
Pas le matin.
Non?
Sincèrement pas. Je suis désolé.
Vous écoutez?
Non, ce matin, j'écoutais Led Zeppelin ce matin.
Voilà.
Ça réveille aussi, hein, je t'assure.
C'est aussi dans les aigus.
Et Juliette, vous avez réalisé des documentaires pour Arte, notamment L'Éloge de la Jupe. Et en 2009, on arrive à un documentaire plus intime sur votre grand-mère, justement, qu'on évoquait, atteinte d'Alzheimer.
Qui se rappelle du piano.
Qui se souvenait en effet plus des prénoms, des noms, mais en revanche, qui était capable de vous corriger sur du Chopin.
Oui, ma grand-mère a eu cette maladie bizarre. Et il se trouve que, comme elle était pianiste, que je pense qu'elle a vraiment grandi avec le piano et que ça a été vraiment le fil rouge de sa vie. Même quand elle s'est mise à oublier tout ce qui était son prénom, sa vie, qu'elle disait, qu'elle faisait fourchette à la place de bonjour, que tout s'en mêlait dans sa tête, il restait la musique, il restait le piano. Et quand je lui jouais, moi ou ma mère, des mélodies, si on se trompait d'une seule note, elle nous engueulait. Mais non, c'est pas ça. Alors qu'elle était incapable de dire ne serait-ce que son prénom. Donc la musique était vraiment restée jusqu'au bout, son territoire de liberté, de conscience. Et c'était très impressionnant, très émouvant.
Ça doit être très émouvant, voilà ce que j'allais dire, très émouvant de se dire, elle a totalement perdu la mémoire, et puis d'un coup, vous avez ce lien magique, artistique.
Ouais, c'est fou.
Qui la rattache à la vie.
À la conscience d'elle-même, ouais. C'est pour ça que j'avais fait un film sur tout un été. Je l'avais filmé avec un ami qui avait eu la gentillesse de venir avec moi pendant un mois la filmer. Et c'est un très beau souvenir, je suis très contente d'avoir fait ce film, ça reste fort à voir. J'arrive plus trop à le regarder. Est-ce que ça me bouleverse?
C'est touchant. Ce documentaire. Puis il y a eu du film vraiment cinéma aussi.
Ouais.
Ensuite,
Une apparition chez Jeunet.
Une apparition chez Jeunet. Là, je viens de faire un court-métrage qui s'appelle Partir un jour avec Amélie Bonin. Et qui a plein de super prix, qui est un très joli film qui va passer sur Arte là.
Qui est un biopic de To Be Free. Hein,
Exactement. Ouais. Je joue Franck.
On va le vendre. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous aviez échangé avec Alain Souchon sur la maladie d'Alzheimer, puisque c'est l'un des combats de toute la famille de Pierre.
Non, j'en ai jamais parlé avec lui.
Et d'Alain. Ouais. Non, mais comme vous aviez aussi partagé des duos sur plateau Taratata. Exactement. L'un de ses combats, et régulièrement il réunit des artistes. Peut-être que vous en ferez partie à l'Olympia pour lutter contre Alzheimer. Retour en 2014 avec cet énorme succès.
Ah, Vanessa. Je dis Vanessa comme si je la connaissais.
Avec du Kravitz aussi, puis avec cette espèce de tempo très, très tabla aussi.
Quel album de fou, un album génial qui est. voilà, qui a réuni, je trouve, deux dieux, quoi. Lenny Kravitz et Vanessa Paradis, qui est vraiment une déesse absolue que j'ai eu la chance de rencontrer dernièrement et dont je suis tombée éperdument amoureuse, qui est vraiment une femme extraordinaire, drôle, intelligente, belle, sensible. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur. C'est la reine de France, Vanessa Paradis.
Et justement, dans Taratata, qui passera en décembre, vous avez repris tandem avec Hervé aussi,
ouais,
dans
absolument.
Une ambiance totalement dingue. Vous avez mis le feu au Zénith. L'enregistrement était à peine deux jours. Et en 2014... Déjà avec Yuxek.
C'est ça, chanson que vous avez envoyée à la copine de Yuxek, en fait.
C'était, oui, sa femme. Enfin, il m'avait aidé à la produire. C'était dans une version au tout départ, hein, en 2014, qui était complètement électronique. Et puis finalement, et c'est vraiment, je lui dois beaucoup. C'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer ma maison de disques. Et voilà, et commencer mon chemin.
Et qu'est-ce qui fait qu'on se lance, qu'on décide de se lancer? Vous étiez journaliste, vous étiez heureuse dans ce que vous faisiez.
Ouais, j'ai en fait, même quand je faisais mes documentaires, j'emmenais mes claviers dans les coffres des voitures, je jouais la nuit dans les chambres d'hôtel, je pense que ça me démangeait très sérieusement quand même. Et j'ai retrouvé récemment un mail, une amie m'a renvoyé un mail où, en 2007, où je faisais mes premières chansons un peu, voilà, c'était du cabaret à l'époque, n'est-ce pas? Et en disant, c'était 2007, donc c'est il y a quand même longtemps, venez au baiser salé, il y a des taxes à 7 euros et tout ça. Donc en fait, le fait d'avoir retrouvé ce mail, je me suis dit, ah ouais, ça fait quand même très 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 longtemps que j'ai envie de faire ça, quoi.
Et pourquoi ne pas se l'être avoué plus tôt ou avoir osé plus tôt, vous savez ça ou pas?
C'est du chemin, peut-être que j'avais besoin de prendre mon temps, de m'accepter, de me rencontrer très mieux. Peut-être que ma musique a mis du temps à me ressembler aussi, à être à mon image, et il a fallu que j'aille essayer pas mal de choses. Je suis lente, voilà, vous l'aurez compris.
Et surtout, non mais vous êtes, et c'est un compliment pour moi, vous êtes obstinée. L'obstination, souvent, et quand on parle d'un enfant qui réclame un bon bec, un chewing-gum, t'es têtu, tête de bois, et ainsi de suite. Or, ça finit par être une qualité, parce que vous n'avez rien lâché, alors que j'imagine qu'il devait y avoir des petits moments de mou dans votre morale. Vous tenez grâce à quoi?
Bah, justement, les moments de mou, voilà, quand je revois ce mail de 2007 où j'invite tout le monde à venir m'écouter pour 7 euros au baiser salé, bah, je me dis, c'était nécessaire, quoi. J'avais envie de ça, j'avais besoin de ça, j'avais envie de partager ma musique.
Ça n'explique pas comment on tient quand ça va pas.
Comment on tient? On est entouré, très bien entouré, très bien. Ouais, ça c'est grâce aux autres qu'on tient, surtout. Enfin, moi, je veux dire, si j'étais moi toute seule, je me serais crachée depuis bien longtemps. Ce qui fait que ça marche, c'est que je suis hyper bien entourée. J'ai une manageuse qui me porte. Je partage ma vie avec un homme qui me porte, qui m'aide. Ma famille, mes amis, c'est tout l'entourage qui fait parfois que vous venez.
Mais ils étaient déjà là à cette époque-là? Non, pas tous.
Certains, oui,
voilà,
pas d'autres.
En tout cas, ceux de l'époque sont encore là.
Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis non,
certains,
puis comme...
pas d'autres.
Oui, comme vous dites, l'obstination et puis le désir, et puis aussi.
Est-ce qu'on, à l'inverse, pardon, on rencontre des boulets aussi dans la vie dont il faut s'écarter, qui sont peut-être des dangers en termes de conseils artistiques, qui vous disent tiens, tu devrais plutôt faire ci, faire ça,
moi,
ou partir sur
grand
piste.
Monde.
Et à ce moment-là, on se dit oula, mauvais conseil, dangereux.
Sauver ma vie, sauver ma peau, quoi.
J'écoute. Oui. J'avoue.
Il y avait une question
là,
que tu posais que dans les masterclass, c'était quel était le pire conseil qu'on vous ait donné. Leïla posait cette question à ses invités. Je trouvais formidable la notion de quel est le mauvais conseil qu'on a pu vous donner un jour.
Et heureusement, vous n'avez pas l'oublier suivi. Parce que de toute façon, j'avoue que je suis assez, je fais pas mal confiance à mon instinct et j'essaie beaucoup de m'écouter au maximum, quoi. Mais non, moi, je pense qu'on est fait aussi de toutes les énergies qu'il y a autour de nous et aussi du public. À partir du moment où quelqu'un,
il y a un retour,
même s'il y a 3 personnes au début qui chantent tes chansons et qui te regardent dans les yeux, puis 10, puis 15, ça porte, en fait. Même les petits messages, moi je lis tous les messages sur Instagram, aujourd'hui je me sens aussi vulnérable que quand j'ai sorti mon premier album, si ce n'est plus. Et voilà, ne serait-ce que d'avoir les petits messages de chaque personne que sur Insta, les réseaux, c'est une plaie, et en même temps ça aide aussi à communiquer avec les gens, de voir les encouragement, moi ça me porte, en fait. C'est le public qui porte aussi.
Et que diriez-vous à un chanteur qui voit 15 personnes, puis 10, puis 3 dans la salle? Vous direz, il faut arrêter ou il faut s'accrocher?
Non, la prochaine fois il y en aura 10 et 15. Il faut se battre. Il faut se battre.
Okay. En 2017, vous sortez un album.
Coming,
Et c'est le premier album. C'est le premier album, Juliette, petite amie, certifiée disque de platine, qui vous a entraîné partout en France. Oh.
Contre ça y est.
Je suis partie.
Fais attention, l'artiste est là.
Ouais, non, mais les albums comme ça, quand on les donne à entendre, quand ils nous appartiennent plus, est-ce qu'on les revisite, soit est-ce qu'on les réécoute? La différence, justement, je trouve qu'elle est intéressante entre l'album et la scène, pour vous avoir vu dans les...
Complètement.
Ouais, c'est, il y a un écart, il y a un travail, puisqu'il y a au moins, il y a quelques années qui se passent entre les deux.
Bien sûr. Bah, en tout cas, moi, j'ai beaucoup, le premier album, il s'était complètement déployé. J'avais fait les arrangements avec Victor Lemann, qui m'avait, accompagné brillamment pour ouvrir tous les arrangements de ce disque et pour en faire un vrai live à part entière. Et ça, c'est la partie qui me passionne. Là, on est en train de travailler avec ma nouvelle équipe de musiciens, on est 6 maintenant sur scène. On travaille justement à mettre en scène toutes les chansons du nouveau disque. C'est un moment que j'adore parce que on revisite les chansons, on va aller rechercher ce qui va marcher, on va aller pousser certains curseurs qu'on n'a pas pu pousser pendant la création. Voilà, c'est un de mes moments préférés.
Et puis il y a eu un moment important, c'est Barack Obama quand même.
Oui, Barack. Qu'est-ce qu'il devient?
Il est avec Springsteen. Il a des bonnes fréquentations. Hein. Ça s'est passé ici, à la maison d'Arlie.
Vous avez chanté devant lui.
Ouais.
Je te sens venir.
Je te sens venir. On se refait pas. Je te sens
venir. Personne ne vous a dit non, tu peux pas oser quand même. Pas devant Barack Obama.
Il était très content, Barack. Et puis on a fait une petite photo tous les deux, mais j'ai quand même l'air de... J'étais très stressée sur la photo. On dirait vraiment un petit hamster. J'ai tous les visages, les traits du visage hyper tendus. Mais j'étais très anxieuse de le rencontrer. Mais ah ouais. C'était marrant, c'est la French Touch. Voilà, c'est ça. C'est l'accueil à la française.
Et c'est une traduction.
Littérale.
Vraiment, c'est mot à mot ce que chante
I feel it coming,
canadien, oui.
Absolument. Oui. Bah,
ça a le même double sens.
Oui, c'est explicite.
Nouvel album de Juliette Armanet. Sorti aujourd'hui de l'album Brûler le feu. Julien Baldacchino, vous nous avez rejoint. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous êtes, journaliste au sein de la rédaction web de France Inter. Vous avez votre chronique Net plus Ultra tous les vendredis à 6h43, c'est précis.
C'est tôt. C'est surtout tôt.
Je posais tout à l'heure la question de savoir, et c'est pas fait pour miner le moral, ou peut-être encourager le moral, que sais-je, de Juliette Armanet sur le marché du disque, mais on entend tout et son contraire sur le marché du disque. On a l'impression que avec les plateformes, il y a une consommation qui est totalement frénétique. Je ne sais pas si les plateformes reversent suffisamment, en tout cas aux artistes, ce qu'ils leur doivent, parce que moi j'en consomme des tonnes de musique, et je me dis, mais si chaque fois que je clique sur un titre, ça rapporte ne serait-ce que quelques centimes à l'artiste, il va être bien content. Comment va globalement déjà le marché du disque?
Globalement, si on se fie aux chiffres, il va plutôt bien. Il pèse à peu près 780 millions d'euros en France chaque année, et c'est quelque chose qui...
Uniquement en France.
Uniquement en France. C'est un chiffre qui est plutôt stable d'année en année, qui monte même un petit peu ces dernières années.
Super.
Mais quand on regarde en fait dans le détail, c'est un marché qui est en recomposition. Et depuis 10 ans, la part des ventes physiques baisse et la part du streaming augmente. Là, depuis 1 ou 2 ans, plus de la moitié en fait du marché du disque, c'est le streaming payant. Donc ce sont quand même des gens qui paient pour écouter de la musique. Mais la particularité, c'est que c'est moins reversé aux artistes que les ventes physiques.
Voilà, c'est ça. Parce que déjà, payer un titre numérique pour se l'approprier, l'avoir sur son disque dur et le consommer où on veut, comme on veut, c'est une chose. L'avoir en streaming sur une plateforme d'abonnement, il faut être donc connecté pour pouvoir profiter de ce titre. On n'en est pas vraiment le propriétaire, entre guillemets, on en est le locataire, quoi, l'utilisateur. Point.
C'est ça, on
programmateur
est
un de sa radio.
Qui n'est pas matériel. et qu'on écoute sur un serveur. Donc ça demande effectivement d'être connecté à Internet. Et pour
apparemment on peut
faire de connexion.
Hors connexion, on peut en avoir quelques-uns. Ouais. Mais alors là, quelle est la quantité de streaming ou d'écoute en stream? On la connaît ou pas vraiment?
Les chiffres sortent. En fait, maintenant, les instituts qui comptent les ventes de disques font des cumuls. Donc on parle d'équivalent vente. Globalement, on considère que 1500 streams, ça correspond à une vente. Donc c'est quand même un ratio assez énorme. Et inversement, qu'une vente de single correspond à 150. C'est pas le même comptage dans un sens et dans l'autre.
Bizarre,
parce que les albums sont comptés en équivalent vente. Donc on convertit les streams en vente et les titres sont comptés en équivalent stream. Donc on fait l'inverse.
Quand on a un disque d'or ou etc. C'est pas que un nombre d'albums vendus. C'est aussi ça comptabilise complètement les nombres de streaming. C'est-à-dire que maintenant on estime que les streamings sont l'équivalent de vente d'albums.
Les formules. En fait, il y a des formules mathématiques qui permettent de comptabiliser le nombre de ventes d'un album, mais qui sont en fait le total des ventes et des streams.
On peut être disque d'or sans avoir vendu un album physique.
Totalement. C'est 15 millions de streams un disque d'or.
Et qui s'en sort le mieux justement
parce que
j'ai l'impression que si ça vend pas mal d'albums, c'est le marché partagé par quelques artistes simplement.
Il y a beaucoup le rap, les musiques urbaines représentent un poids assez énorme là-dedans. Mais par exemple, si on prend le top des ventes là cette semaine, il y a aussi deux artistes confirmés qui reviennent, qui sont Ed Sheeran d'un côté, et puis ABBA. En fait, le nouveau disque d'ABBA, c'est la première vente de disque qui...
En France.
Qui a été vendu 40 000 fois sur une semaine, à peu près.
40 000 fois.
Merci beaucoup d'être venu, Julien Balakino. On vous retrouve donc vendredi prochain à 6h43.
Demain.
C'est précis, sur exactement.
C'est demain.
Un dodo, et vous verrez bientôt pour écouter Julien
dodo,
sur Inter.
Ouais.
Voici Jérémy Crédit.
Jérémy,
le retour.
Ambiance.
Il y a pas longtemps, j'ai fait une chanson pour sensibiliser à la détection du cancer du sein chez
la
femme.
Exact. Formidable.
C'était durant le mois d'octobre, rose. Moi, de la sensibilisation au cancer. Excellent. Là, le mois de novembre est dédié au cancer. C'est énorme. Il est donc temps de dédramatiser un geste qui reste un peu tabou chez la plupart des hommes parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte, parce qu'à leurs yeux, ce geste n'est pas assez. Le toucher rectal.
Dans la toute petite salle d'attente, front mouillé parce que t'es stressé. Cette année, t'en as eu 50, c'est le moment de se faire dépister. Ton pantalon va falloir l'enlever pour voir si t'as un cancer. C'est un moment délicat, je le sais. Le proctologue n'a pas de plaisir à le faire. T'as pas envie qu'on te voit nu. T'as pas envie du doigt dans le cul.
Oh là là.
Mais rassure-toi, ce sera pas long. Vaut mieux l'index que le talon.
Anatomiquement, il n'y a pas photo en fait. Hein. Même si votre proctologue a des grandes mains et des petits pieds, un petit talon, ce sera toujours plus imposant qu'un gros index. Puis un talon, c'est moins précis. Non, puis ça va, vous avez vu les instruments qu'utilisent les gynécologues? Est-ce que les femmes se plaignent? Oui, elles ont raison. Donc il faut se prendre en main, les gars.
Et tu te prends en main. Et tu te prends sa main. Finalement, c'est bénin. On s'en fait tout un foin. À quatre pattes, tel un labrador, on te dit qu'il faut être détendu. C'est malaisant, oui c'est vrai, mais c'est indolore. C'est fou ce que t'es fragile une fois dévêtu. Tu n'étais pas préparé à ça. T'aurais voulu qu'on appuie sur ta cheville. Sauf que la prostate se cache en toi. Faut forcément passer par ta pastille. T'as pas envie qu'on te voie nu. T'as pas envie qu'on te voie dans le cul.
Non, non.
Mais rassure-toi, ça sera pas long.
Oh oui.
Vaut mieux l'index que le talon.
Oh non.
Et si grâce à ça on vous détecte un cancer de la prostate assez tôt, vous pourrez dire que vous êtes passé à un doigt de la mort. Et ça c'est quand même rigolo.
Joli.
C'est qu'un toucher, c'est rien. C'est presque un va-et-vient. Geste précis du médecin. Fais pas ça chez l'opticien.
Bon, alors, il n'y a pas que le cancer de la prostate, il y a aussi celui du testicule. Alors, douleur, inflammation, gêne, changement de forme ou de couleur. On consulte, on se prend en main. Ciao, bonne émission.
Merci, bravo, Jérémy.
Jérémy, au Sébastopol de Lille, le 20 décembre, il reste un peu de place, allez, venez.
Tanguy Passureau, rebonjour.
Rebonjour.
De quoi parles-tu aujourd'hui?
Je vais vous parler du Covid, ah là 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 là, on n'en sort plus, 2 ans plus tard, il est toujours là, le Covid a déjà duré plus longtemps que la carrière de Macaulay Culkin.
Bande originale avec Hélène Audoubou d'Adi, avec Florence Mendes,
salut.
Avec Morgane Gadignan, Jérémy Crédit, Tanguy
Bastureau,
Daniel
Morin
et notre invité
Jean
Julien
Darmanet.
J'ai les choristes là, ça y est.
Oh, comme un coquelicot.
Le nouvel album de Juliette Armanet. Avec un porte. Mais également, tu me plais. Voulez-vous faire Boom Boom Baby?
Tenez pour le concert qui va le
faire.
Elle aussi, elle ne pense qu'à ça.
Tellement à l'ancienne.
Elle est même au 1617.
La petite aiguille est sur le 12. La grande sur le 8. Il est 12h08.
Mais tu fais si bien.
T'as fait la radio. Là, normalement, il annonce à 36-15 derrière.
Est-ce une... Non.
Tu vas rencontrer une... les filles dans ta région.
Arrête, on n'entend pas.
Est-ce une référence à Alfred Hitchcock ou une simple histoire d'amour? D'ailleurs, vraie question.
Ah, tu y reviens.
Il a repris sa voix.
Non, Hitchcock. J'avais pas posé la question sur Hitchcock.
Bien sûr, au début, j'avais mis un extrait de Hitchcock du film à la fin, mais... Ça coûtait trop cher, on l'a payé.
Pour vos baptêmes, vos bar mitzvah, demandez à Juliette Armanet de venir également chanter pour vos anniversaires.
On peut faire ça deux fois.
Un petit côté Marilyn Monroe, quoi. Vocal hein, dans cette
tu n'auras l'amour en un seul bijou.
Quelqu'un peut débrancher Naki.
Tu seras au garde à vous.
Salut tout.
Je passe l'album, excuse-moi.
Je bosse.
Excuse-moi. Jamais fait aucune interview où tout l'album est passé pendant une interview.
C'est vrai.
Je ne dis plus rien, c'est ce que je préfère. Ma pauvre.
Votre signature d'avoir ce spectre de notes de musique, cette capacité à monter aussi haut et avoir une voix grave, non, vous en jouez clairement.
C'est ma touch, on va dire. Non, c'est vrai que je me suis vraiment amusée avec ce disque à aller vraiment chercher toutes les hauteurs du cœur là, d'aller loin dans les extrêmes de la voix. Et il va falloir le chanter en live maintenant. Ça va être une autre paire de manches.
Est-ce que ça veut dire que c'est précieux déjà? On repense à tout ce qu'on s'est dit autour de Céline Dion et de la manière dont elle gérait entre guillemets sa voix par des jours voire des semaines de silence, par une hygiène de vie. Est-ce que il y a une rigueur
On est un peu plus agaçants.
Juliette, attention, je viens de dire hygiène de vie.
Non, j'ai la voix de ma vie. On a la voix de sa vie. Je pense que les voix changent. On parlait de Véronique Sanson tout à l'heure quand on avait fait ce duo. Voilà, sa voix, c'était une voix qu'elle avait accompagné sa vie et sa voix racontait sa vie. Et je pense que j'ai l'impression que nos voix racontent où on en est dans nos vies. Pour le moment, elle peut encore monter si haut, peut-être que dans quelques années un peu moins. Et
avec la maternité, votre voix a changé.
Peut-être.
Isia disait ça, qu'elle avait dû réapprendre à chanter.
Peut-être. En fait, en tout cas, quand j'ai enregistré l'album, Marlon, avec qui j'ai fait toutes les prises de voix, qui avait fait tout le premier album avec moi, m'a dit, mais attends, là, c'est plus du tout, faut que je prenne d'autres micros. Il se passe pas du tout la même chose, ça capte pas du tout le micro de la même manière. Et au début, ça m'a fait paniquer. Et en fait, il m'a dit, mais attends, c'est beau, ton corps a changé, t'as eu un enfant. Voilà, c'est super. Ça veut dire que ça, c'est hyper vivant, ça change, quoi.
Brûler le feu, nouvel album qui sort aujourd'hui de Juliette Armanet, qui partira en tournée à partir du 22 janvier. Nîmes, Strasbourg, Lausanne, Grenoble, Aix-en-Provence, Bordeaux, Poitiers, Nantes. Paris à l'Olympia, ça sera au mois de février, les 16 et 17 février. Elle a sauvé la Saint-Valentin. Rouen, le 25 février. Ensuite, Lille à l'Aéronef, rien que ça, le 26 février. Puis Metz, Marseille, Rennes, Douai, Antibes, Toulouse, Lyon, Clermont-Ferrand, Nancy et retour au Zénith à Paris le 23 novembre 2022.
Et on a ouvert aussi des Zéniths à Lille, à Nantes et à Bordeaux.
Et vous allez danser ou pas sur scène? Parce que quand moi j'ai vu ce clip, ça y est, dernier jour du disco,
elle bouge, évidemment.
Ça danse, évidemment. Mais grave. Et je me suis dit, tiens, sur scène, est-ce que ça va pas lui donner envie aussi de...
Du lâcher prise.
Ouais. Le lâchage même.
Le lâchage du piano.
Oui, bah je dansais déjà beaucoup sur le premier live. Mais moi j'aime de toute façon, j'ai besoin de danser sur scène, j'ai besoin de sortir de scène transpirante, rouge tomate, j'ai besoin qu'il se soit passé quelque chose de physique.
Ouais, donc vous avez bossé avec une chorégraphe aussi.
Un chorégraphe, Jérôme Ramad, ouais. Et là récemment Nicolas Huchard là sur le clip qui va sortir demain. Mais en fait, j'ai pas non plus envie que ça devienne de la chorégraphie à part entière. J'ai envie de garder une part de maladresse et un truc un peu sauvage parce que je pense que ça fait partie du charme, naturlich. Mmh. Voilà, exactement.
Brûler le feu, nouvel album tourné en 2022 et puis tu la verras danser dans Taratata le 10 décembre prochain déjà pour chanter le dernier jour du disco. Mais nous offrir aussi un duo avec Sting, Every Breath You Take, chanté par Juliette Armanet et Sting. Et puis elle reviendra dans Taratata, décidément, ça va se voir qu'il se passe un truc entre nous. Fin décembre, pour ce duo avec Hervé, sur le titre Tandem, concert avec 44 artistes pendant plus de 2 heures, donné pour la lutte contre le cancer et rapporté de l'argent à la Fondation pour la Recherche Médicale. Voici Tanguy Presco.
Ah, le Covid, ça commence à faire un bout de temps qu'on est ensemble, lui et nous. On a un rapport presque intime, moi je l'appelle mon petit loulou, ou Coco. Hein, ça va faire 2 ans en fait qu'on se fréquente. Il y a 2 ans, soit un pangolin à micropénis en pleine crise de réalisme a décidé de faire l'amour à une chauve-souris, soit un stagiaire de 3e a mal fermé la porte du labo et le truc s'est barré, on ne sait pas. L'OMS a essayé d'enquêter, ils sont allés en Chine, ils ont dit à Xi Jinping bonjour, il a répondu non. Ils ont dit on peut enquêter, il a répondu non. Pour déconner, ils ont dit on joue à ni oui ni non, il a répondu non. Et avant même qu'ils aient le temps de lui dire hey, t'as perdu, l'autre les foutait dehors. La Chine, c'est impossible d'y enquêter. Il faut savoir qu'il y a un remake chinois de Derrick, ça a commencé il y a 22 ans, ils sont toujours à l'épisode 1. On voit Derrick chinois qui dit « Ah, j'arrive à rien, j'ai l'impression d'être la communauté internationale au moment de lutter contre le réchauffement climatique. » Et donc, 2 ans plus tard, le Covid reste là. Mais c'est comme le R&B, on pensait qu'après l'âme, ça allait s'éteindre. Mais non, il y a toujours une petite nana qui pue le groove et se dit « Ce serait dommage que les gens le samedi soir fassent l'amour sans ma musique. » Et paf, elle remet le couvert. Parce que quand on n'a pas un physique qui suffit à stimuler la personne, une playlist, ça peut aider. Un Michel Barnier qui ressemble à un mocassin à gland, il peut conclure qu'avec l'intégralité de la discographie de Marvin Gaye. Alors que Laurent Delahousse, même si jette son slip sur René Latour, ça marche.
Évidemment.
Mais revenons au Covid. Hier, je lisais un article sur Pfizer. Alors eux, ils sont bons. Hein, il y a 20 ans, ils ont lancé le Viagra, qui a permis à des millions de mecs usés de retrouver la même vigueur que l'étalon noir le jour où on a changé son foin. Le principe est simple. On a le bas-ventre en berne. Zou, on avale un Viagra, avec une choucroute, si on est alsacien. Hein, on attend 20 minutes. Pendant ce temps, on regarde Plus belle la vie. Et là, d'un coup, l'effet se fait sentir devant la conjointe interloquée qui se dit, bah, dis donc, Marseille, ça le motive, le Jean-Yves. On va peut-être déménager. Donc, déjà, le Viagra, bien joué. Mais là, avec le vaccin anti-Covid, c'est le jackpot. Les 3 labos Pfizer, BioNTech et Moderna engrangeraient un profit de 57 000 euros par minute. Même au Qatar, les gens se sont dit « Ah ouais, quand même !» Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, se retrouve multimilliardaire. En dessous du million, il n'arrive plus à compter. Une fois, il a pleuré chez Auchan, il avait pris un paquet de 3 pains au lait, 3,90, il n'a pas réussi à payer. Il disait à la caissière avec 3 quoi ? Millions, milliards, trillions ? Elle répondait « Non, 3 !» Enfin, il ne peut plus manger de pain au lait. Il survit en se nourrissant d'ailes de jet privé à 5 millions à l'aéroport du Bourget. Alors je sais que vous allez me dire, oui, pas moyen de faire du fric en 2021 sans avoir à subir de reproches, ras le cul de cette société de décroissants, mais calmez-vous Nagui, là, je suis de votre côté. D'autant que pendant que les labos préparaient des vaccins, nous on essayait péniblement en plein confinement de fabriquer du pain dans notre cuisine. C'est pas avec ça qu'on fait fortune. Un seul Godefroy Banette a réussi ce défi en ouvrant le premier magasin Banette à Dijon en 1400. 1711. Non, mais c'est pas moi qui critique Pfizer. C'est une ONG, c'est Repères de Gauchistes sapés en l'un. Mm-hmm. La People's Vaccine Alliance. Alors, ils disent que Pfizer et les autres ont fait de gros profits, on est d'accord, mais en vendant leur stock aux pays riches. Parce qu'Ursula von der Leyen de l'Europe des 130, là, au moment de régler, elle a sorti un carnet à souche de 25 mètres de haut en demandant peut-on payer en ticket resto. Résultat, en liaison avec Macron, qui a cette culture du brousouf. Hein, il a été élevé par des traders qui ont trouvé son couffin au pied de la tour totale à la Défense. Bon, ils nous ont acheté des millions de doses. Hein, on s'est fait piquer une fois, deux fois, la troisième, ça arrive, votre passe sanitaire, si vous la faites pas, sera désactivé. Bref, tout ça, à défaut d'être démocratique, est au moins efficace. Bon, on est bien protégé. On le voit parce que Gabriel Attal ne parle même pas de nous réenfermer, alors qu'à l'habitude, il aime ça. Hein, c'est le genre en soirée, vous attachez un lit à baldaquin et jeter la clé des menottes dans les Wawa. Hein, maintenant, quand je lis 50 nuances de Grey et que j'imagine à quoi ressemble le héros, je vois Gabriel Attal en sueur qui dit une bouchère un peu d'infos, je vais dévorer les rognons, ma grosse loute. Mais les pays pauvres, eux, comment font-ils? Eh bien, ils ne font pas. C'est ça le souci. La People's Vaccine Alliance le dit, il n'y a aucun intérêt à vendre des vaccins aux pays sans le sou, puisque les pays riches, à chaque vague, rachètent des doses. C'est comme la drogue. Si l'acteur le plus bankable de France vous la prend, vous n'allez pas vous embêter à aller voir Philippe Poutou avec la marchandise. Résultat, les pays du Sud, comme on dit pudiquement pour éviter de parler des pauvres, se retrouvent sous-vaccinés, ce qui, sur une pandémie mondiale, est totalement con. Nous vaccinez nous 16 fois pendant qu'en Russie, il y a 40 variants par semaine, c'est absurde. Car, révélation, les personnes bougent. À part entre la Pologne ou la Biélorussie, où ils jouent à 1, 2, 3 soleils avec des gens. Bon, partout, ça circule et ça s'infecte. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est vacciner le monde entier à peu près en même temps. Là, on était peinards. Mais bon, on serait tous en train de se rouler des galoches avec Gabriel Attal derrière qui crierait « Allez-y, lâchez-vous. » Mais on n'est pas assez organisé pour ça. Je rappelle que l'être humain, une fois sur deux, fait ses courses de Noël la veille de Noël. Hein. Moi, je suis comme ça. Quand je vais à Nature à Découverte, c'est vide. Il reste plus que des bâtons de pluie. J'ai déjà offert 300 bâtons de pluie. Je n'ai plus de proches. Hein. Donc, la vaccination planétaire, on est passé à côté. Et maintenant, on galère. Donc, courage, plus que 11, 12 ans. Et ce sera le retour à la normale. Fini le Covid.
Merci, Tanguy Pascal.
Et Tanguy, tu seras le 13 janvier à Biarritz, à la gare du Midi.
Oui.
Je te le donne sur le nouvel album de Juliette Armanet. Imaginez l'amour, imaginez les étoiles en plein jour.
Oui, que l'on ferait la nuit quand je prendrai ton corps. Parfois tu chuchoterais, ça ferait comme des bracelets pour défier la mort.
Et vous dites d'ailleurs, imaginez la vie que je n'aurai jamais, en tout cas, pas ici. Une forme d'ésotérisme, c'est-à-dire de... d'une autre vie ailleurs.
Une mystique. Bah, en tout cas, pas ici, pas dans cette vie-là. Voilà, c'est ça. C'est parfois on a. Moi, je trouve que les territoires de fiction, l'imaginaire, c'est un territoire de liberté très fort. Et voilà. Et parfois, l'imaginaire permet de convoquer les gens qu'on aime, les gens qu'on voit plus, les gens qui ont disparu, et d'avoir des vies rêvées avec eux. Donc ça console. C'est un peu un territoire de consolation, je trouve.
C'est vrai que l'image du feu et de l'amour est très fréquente sur votre album, avec y compris à la fin, ça part en fumée. Quoi.
Ça part en fumée, Nagui.
Oui, ça part.
Le monde part en fumée là.
Et ça part, c'est ça. Et ça part en live aussi, en tournée, où on vous posait déjà la question de la setlist, comme on dit, c'est-à-dire de quelles chansons allez-vous chanter entre, évidemment, les deux albums, puis les reprises aussi que vous avez faites. On parlait de celle de pour Barack Obama tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des incontournables, des idées? Vous ne pouvez pas ne pas faire l'amour en solitaire. Vous ne pouvez pas
ne pas faire l'amour en solitaire, je ne peux pas ne pas chanter à la folie, je crois.
Oui, oui,
je peux pas ne pas chanter l'Indien. Après, voilà, il y aura des crève-cœurs et puis on bougera. Il y aura des jours où on en chantera certaines et pas d'autres, j'imagine.
Vous pouvez pas faire les deux albums.
Ouais. On fera le grand péplum de 4 heures. Non, mais c'est
l'Indien,
vrai. Que...
L'Indien, on en parle, mais on l'a pas encore entendu.
J'ai mes choristes là.
Non, et puis
surtout, ça prouve que vous aviez déjà ce tempo et cette envie de bouger. Certaines personnes présentent ça comme étant une révolution, une nouveauté. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle devient
ils
disco.
Ils ne sont pas venus à mes concerts. Parce que j'avais ma grande boule disco, mon rideau à paillettes. Il y avait déjà deux ou trois titres disco sur le
et
premier.
Et vous leviez déjà et vous dansiez déjà
avec
aussi.
Mon costume flamboyant.
Ça a l'air de choquer. Est-ce que les morceaux se composent de la même manière au piano, quel que soit le style, la douceur ou le tempo?
Oui. Quel que soit le style, la douceur ou le tempo, non, c'est pas mal. Oui, je suis toujours accrochée à mon piano comme une moule à son rocher. Je suis vraiment, c'est mon socle, c'est mon noyau dur. C'est vraiment avec mon piano que je dialogue le plus. C'est mon endroit de liberté. C'est là où je peux tout faire, rire, pleurer, danser. Après, j'ai appris à arranger autrement les chansons. J'ai appris à composer un peu différemment. Et puis, je me suis pas mal perfectionnée grâce au live en tant que musicienne. Et mais ça reste vraiment le dialogue. C'est ce dialogue-là qui est vraiment le socle de mon travail.
En tournée à partir du 22 janvier, Juliette Armanet sur scène. Elle va brûler les planches, mais d'abord, elle brûle le feu avec son nouvel album. D'autres événements culturels, Leïla.
On va parler de Carmen Mola, qui est une auteure à succès espagnole qui débarque en France. Elle écrit des thrillers ultra violents qui mettent en scène une inspectrice. Et bien, il s'est passé quelque chose d'assez important autour.
C'est trois co-auteurs.
C'est ça, absolument. Derrière ce pseudo, ce sont trois garçons, trois hommes qui ont pris l'identité d'une femme. Ça a été révélé lorsqu'ils ont remporté un prix à Barcelone. Ils sont montés sur scène. Alors, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, puisqu'on a encensé cette autrice et on découvre qu'en fait, ce sont trois hommes.
Il faut trois mecs pour faire une femme.
Oui, c'est ça. Ou alors, on peut aussi se dire que c'était une façon de faire un petit peu de com. C'est une sorte d'Elena Ferrante à l'espagnol. Ça n'a pas été très très bien vu par pas mal de mouvements féministes espagnols, parce que tout d'un coup, on pensait que c'était la réussite d'une femme, et en fait non, ce sont trois bonhommes qui se planquent derrière ça. Je sais que vous lisez beaucoup, Juliette, vous êtes une lectrice, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez aimé récemment?
En ce moment, je lis la BD de Riyad Sattouf, qui est géniale, sur Vincent Lacoste.
Ouais, parce il sera notre invité lundi.
Et ben voilà,
ils seront là, d'ailleurs.
Le duo de choc, c'est absolument ils sont charmants et la BD est vraiment géniale. Ouais. Ils ont eu la délicatesse de me l'envoyer. Et je lis Réinventer l'amour de Mona Chollet, qui est vraiment un ouvrage vraiment très intéressant.
On est nombreuses à le lire en ce moment.
Ouais. mais je le trouve très intime.
Pourquoi nombreuses et pas nombreux?
Parce qu'en fait, on en parle beaucoup entre filles, plus souvent.
Moi, j'essaye c'est un ouvrage à des hommes, mais...
Ouais. Et tu le renvoies?
Non, mais ils finissent pas forcément.
Moi, j'ai essayé d'en parler, on m'a envoyé me faire foutre.
Mais voilà. Autre question, quelle chanteuse sera la star du prochain doc Netflix?
Ah, Angèle.
Angèle.
Absolument, Angèle, il sort la semaine prochaine. Le 26 novembre.
Début d'Angèle.
C'est ça. Cet artiste qui fait partie du label Romance Musique, comme vous et comme Clara Luciani, a eu envie de se raconter pour raconter en effet cette ascension fulgurante, cette période de sa vie quand même complètement folle, parce que c'est vraiment une ascension dingue. Il y aura des images d'archives, mais il y aura aussi des moments plus contemporains où elle va se livrer, faire découvrir aussi quelques titres et inédites. Son prochain album.
Je crois pas qu'il y ait beaucoup de docs qui arrivent au niveau d'Aurel San, parce que avoir un frangin qui, dès les premières années, commence à filmer.
Incroyable.
Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, j'ai pas décroché une seconde. C'est génial. Il va le filmer quand il est gardien de nuit d'un hôtel.
Alors, vous qui réalisez les documentaires, vous avez réalisé des documentaires, Juliette, est-ce que vous pourriez vous raconter par ce biais-là?
En tout cas, on est amené à beaucoup se raconter maintenant avec les réseaux, Instagram, à faire des images absolument.
Et alimenter la chaîne, en
fait. Alimenter la chaîne, puisque tout passe par l'image maintenant. On se met déjà, il y a une forme de récit de soi déjà à travers toutes ces images, les fameuses stories. Mais en tout cas, ça m'intéresse, cette question de comment de montrer les coulisses de tous ces jours de travail et de concerts et de création, parce que je pense que les gens se doutent pas forcément de comment ça se fabrique, des enjeux justement de toutes les équipes qu'il y a autour.
Vous feriez comme Pascal Obispo qui est venu nous l'expliquer, là, qui a fait qui est sorti de sa maison de disque et qui a créé son application sur laquelle il y a toutes les chansons, mais il crée des images, il fait des émissions de télé où il invite d'ailleurs d'autres artistes. Il fait des documentaires, il sort toutes les chansons qui lui passent par la tête, même celles qui ne devaient pas sortir. Ouais. C'est une idée qui vous séduirait ?
Oui, en tout cas, c'est intéressant de pouvoir donner un peu un libre accès à de manière un peu moins formatée à ses chansons, à sa vie d'artiste.
C'est ça.
Voilà. Ça, c'est après, moi,
totale liberté.
Totale liberté. Mais j'aime bien aussi l'enjeu de j'ai travaillé, on a travaillé dans les coulisses, dans le silence, et là on divulgue quelque chose. Il ouais. y a aussi quelque chose d'assez agréable dans le fait d'avoir ce rite de passage comme ça. Mais j'aime bien l'idée.
Rite de passage dans cette émission, les excuses à présenter par Daniel Morin.
Absolument déjà désolé pour notre invitée Juliette Armanet. À la suite de votre remarque sur le fait de chanter lors des événements gays ou tristes, j'ai eu des demandes de Morgane pour son mariage imaginaire, de Guérémy pour sa fête à la prostate, et difficile, ce sera pour Leïla, c'est difficile, ce sera pour sa journée sans poppers. Je vous donne les dates précises après l'émission.
Les années bissextiles.
Désolé, j'allais oublier, désolé, parce que vous devrez peut-être accompagner Nagui qui va se faire couronner empereur de la bande FM.
La petite aiguille est sur le 12. La bande sur le 8. Il est toujours
oui, pareil. Il insiste pour que vous veniez chanter pour fêter ça. Désolé encore pour toi, Nagui, qui visiblement a du mal à comprendre qu'une rupture pouvait être une libération. Tu sais, j'en ai parlé avec ta femme à la pause et elle aimerait vraiment beaucoup.
Il faut qu'elle me parle.
Beaucoup, beaucoup que tu ouvres la porte de la cave. Voilà, alors, Madame Guy, ça y est, le message est passé. Désolé pour tous ceux qui ont peur du protocole.
Oula.
Ouais, je sais pas. En tout cas, à 11h55, ils ont vécu un moment difficile en écoutant Guérémy et sa chanson Prostate Friendly. Faut pas avoir peur, les gars. Et puis, quand c'est bien fait.
Oui, c'était très bien fait. Ça restera dans les annales. Le dernier jour du disco, c'est le premier single. Goodbye. D'ailleurs, je vous ai pas posé la question, mais est-ce que le choix du premier titre est quelque chose de délicat aussi quand on a un album prêt, tout comme d'ailleurs le titre de l'album? Ce sont deux modes de communication très importants. C'est...
Totalement. Le premier titre, moi j'étais assez certaine depuis le début que ça allait être celui-là, parce que je trouve qu'il renouait avec justement le piano-voix, la balade du début, et qu'il emmenait, il prenait par la main comme ça vers quelque chose de dansant. Et ça me semblait, puis je sais pas, le texte, ce dont ça parlait, ça me semblait être assez évident. Que j'avais envie de revenir avec ça, avec ce c'est la fin, n'est-ce pas? Et puis pour le quant au titre du disque, Brûler le feu. Au début, c'était le titre d'une des chansons donc du disque.
La dernière.
Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçue, mais de manière, c'était totalement inconscient, que dans chaque chanson, il y avait un briquet, une allumette, du rouge, des flammes, voilà, et que en fait, voilà, j'en avais mis partout du feu. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut être un très beau titre d'album,
très cohérent, ouais.
Parce qu'il y a quelque chose aussi de, c'est un peu une espèce de poème, un peu comme ça, un peu surréaliste, comme si on jetait une fenêtre par la fenêtre ou qu'on s'y est une scie. Enfin voilà, il y a quelque chose où on va au bout de, à l'extrême du poème, jusqu'à presque
dans l'exagération.
Ouais. Et puis ça me parlait bien comme petit mantra intime, justement de brûler le feu. C'était un acte un peu militant, un peu un slogan flower power rock.
Brûler le feu, l'album sort aujourd'hui. Juliette Armanet en tournée à partir du 21 janvier. Les deux rendez-vous, en tout cas pour ma part, à la télé avec Juliette Armanet. Le 10 décembre avec Sting.
On aime bien dire ça quand même. Moi, je suis très quand même fière de dire ça le 10 décembre avec Sting.
Bah ouais. Non, Gabriel, ce que tu as découvert aussi, on a découvert qu'il
il est génial.
Il a une voix absolument incroyable. Eddie Mitchell sera également présent dans ce Taratata. Mais pour l'instant.
Et 26 novembre sur France Inter.
Pardon?
26 novembre sur France Inter.
Il y a un concert.
Dommage, hein, c'était bien.
Très bien. Oui, oui, c'est dommage, oui. Il m'a niqué mon effet. Je le refais pour l'instant. Voilà. Merci Juliette, bonne journée.
Merci,
demain,
merci à vous.
Bruno Solo est notre invité. Voici les carrés de campagne de Philippe Bertrand.